battu encore maintenant? Quelle est la...
Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Femmes, Radio Zone 93.8. Et oui, en ce mercredi 17h, c'est le début de nos émissions en direct dans Ondes Femmes, et ceci jusqu'à 23h. Remue-ménage, c'est de 17h à 18h30 en direct. Alors si jamais il vous prenait l'envie de me téléphoner, histoire de me dire ce qui se passe autour de vous, parmi vous et en vous, en tant que femme, eh bien n'hésitez pas à m'appeler au 50 40 51 41 023 depuis Genève 0033, depuis la Suisse romande voisine. Alors cet après-midi dans Remue-ménage, quel est le programme que nous vous proposons? Tout d'abord, je veux vous parler d'une conférence extrêmement importante qui s'est tenue avant-hier et hier à Genève aux Nations Unies. Ce sera la première chose, c'est la conférence des femmes pour la paix israélo-palestinienne. C'est la première chose que nous évoquerons cet après-midi. J'ai pu aller à la conférence de presse aujourd'hui à 11h30, mercredi à 11h30, et je vous rapporterai ce qui a été discuté lors de cette conférence entre femmes à propos de la paix israélo-palestinienne. En deuxième partie de notre émission, eh bien, je vous propose de vous mettre quasi en direct, comme si vous étiez, lors du débat que la librairie L'Inédite a organisé au Salon du Livre 91, c'est-à-dire il y a une semaine à peine, débat que L'Inédite avait organisé autour du livre « Vers la majorité politique », livre écrit par Lottie Rückstuhl et édité par l'Association pour les droits de la femme à l'occasion des 20 ans de l'obtention du droit de vote pour les femmes en Suisse. Alors ce débat réunissait diverses femmes, elle réunissait Simone Chapuis, qui est présidente de l'ADF pour la Suisse romande, réunissait Jacqueline Bernstein-Waff, que vous connaissez bien à Genève, ancienne présidente du Grand Conseil genevois et membre de nombreuses associations féministes, Martine Chaponnière, auteure de recherche de documents, active à l'université, enseignante à l'université. Et ces trois femmes ont animé le débat autour de ce livre. Et bien sûr, il y a eu diverses interventions de quelques femmes qui se trouvaient lors de ce débat au Salon du Livre. Alors nous pensons que ce débat peut vous intéresser et c'est un peu notre chapitre L'Inédite de ce mois. Mais tout de suite, on se met dans l'atmosphère du Moyen-Orient pour que je vous parle de cette conférence très importante des femmes pour la paix israélo-palestinienne. Il y a quelque temps déjà, en avril 1991, des femmes ont envoyé une lettre à des milliers d'autres femmes dans le monde, leur disant ceci. « Chers amis, nous femmes, nous partageons une vision de liberté et d'égalité. Nous sommes ensemble pour une lutte commune contre la discrimination, l'oppression et la subjugation de tout type, que ce soit sur la base du sexe, de la religion ou de la nationalité. » Nous formulons notre engagement envers une solution pacifique du conflit israélo-palestinien et la réconciliation comme ultime source de libération pour les deux peuples. Nous affirmons en conséquence que chaque peuple a le droit de vivre dans son propre État avec des frontières sûres et reconnues. Il est devenu clair que le gouvernement d'Israël, afin de parvenir à cette solution pacifique, doit négocier avec le représentant légitime du peuple palestinien, l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine. L'accord sera basé sur des garanties et la reconnaissance internationale. La guerre du Golfe a rendu plus intense notre conviction de la nécessité de résoudre les conflits par des moyens non violents. Dans cette perspective, nous, femmes, avons un rôle à jouer pour réaliser et sauvegarder la paix. Après des années de promotion du dialogue et de vigilance, nous éprouvons le besoin d'une conférence réunissant des femmes du monde entier pour élaborer des plans d'action concrets qui mettront fin à l'occupation et feront de la paix une réalité. Ce temps est arrivé pour la mise en œuvre des résolutions de l'ONU concernant la question de la Palestine. La conférence est conçue ensemble avec des femmes d'Israël et de Palestine, mais aussi de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, de l'Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines, de la Commission des Églises pour les affaires internationales du Conseil œcuménique des Églises, Femmes pour une sécurité mutuelle, Femmes pour la paix Genève. Des femmes d'Israël et de Palestine, ainsi que des femmes représentant des organisations féminines internationales et nationales, participeront à cette conférence du 13 au 15 mai 1991 au Palais des Nations. Alors ce matin, à 11h30, mercredi 15 mai, eh bien, ces femmes donnaient une conférence de presse puisqu'elles avaient tenu à se réunir quasi à huis clos pour pouvoir mener leurs discussions et leurs nombreux ateliers où elles débattaient de sujets particuliers. Donc cette conférence de presse a réuni les femmes israéliennes, quelques femmes israéliennes, quelques femmes palestiniennes, parce qu'il y en avait de nombreuses, étaient présentes des femmes du côté israélien, des diverses associations et mouvements pour la paix des femmes. Il y avait une représentante du parti du Labour Party israélien, excusez-moi. Et du côté palestinien, il y avait des représentantes des organisations féministes des territoires occupés et des représentantes de l'OLP. Alors ces différentes femmes étaient présentes et elles ont tenu à nous lire le document final, la résolution finale qu'elles ont décidé d'écrire après ces deux jours de rencontres. Voici une traduction faite quasi simultanément sur place.
Notre soutien aux résolutions pacifiques du conflit israélien israélo-palestinien basé sur les résolutions du Conseil de sécurité numéro 242-338, territoire en échange de la paix, deux États, Israël et Palestine coexistant pacifiquement dans des frontières sûres et reconnues. Dans ce but, nous appuyons les négociations entre les gouvernements d'Israël et les représentants légitimes du peuple palestinien, à savoir l'OLP. Nous pensons que les femmes ont une responsabilité toute particulière pour mettre en lumière le besoin urgent de paix entre les Israéliens et les Palestiniens, sans laquelle le cercle vicieux de la violence ne fera que s'accélérer. Nous sommes persuadés que les femmes ont un rôle unique à jouer pour faciliter ce dialogue entre les deux peuples et tenter de supprimer les obstacles à leur réconciliation. Nous appelons à l'arrêt des constructions, de la création et de l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires occupés. L'expansion et le financement des colonies israéliennes dans les territoires occupés. Lors de cette première rencontre après la guerre du Golfe, nous, femmes d'Israël, de Palestine et de 13 autres pays, nous nous sommes rencontrées à Genève du 13 au 15 mai afin de parler ensemble et de trouver ensemble des solutions pacifiques au conflit afin que des pas concrets puissent être parcourus sur le chemin de la paix. Pendant ces deux jours de travail, les sujets principaux de discussion ont été les suivants. Quelles stratégies sont possibles au plan international afin que les résolutions des Nations Unies sur la Palestine et le conflit israélo-palestinien soient appliquées? Les participantes ont parlé du besoin urgent de convaincre et de faire pression sur les Nations Unies et sur les gouvernements respectifs afin que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant au retrait d'Israël des territoires qu'il occupe depuis 67 soit appliqué en échange de la paix. La sécurité de la région et le contrôle des armements. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans paix. La sécurité ne peut se construire que sur un respect mutuel, qu'il soit économique, humain, social et culturel. Et sur le respect des droits de l'homme et de la femme et de leur liberté fondamentale. Le conflit du Moyen-Orient ne peut être résolu qu'à travers des négociations et la signature des traités de paix basés sur la sécurité de toutes les parties engagées. L'accumulation d'armements menace la sécurité de la région et c'est pourquoi nous demandons, premièrement, la limitation des envois d'armements dans la région et deuxièmement, que tous les pays de la région ratifient le traité de non-prolifération des armes nucléaires. La Convention sur les armes biologiques et tous les traités et conventions qui, dans l'avenir, auront pour but de supprimer les armements de destruction de masse tels que la Convention sur les armes chimiques. Ceci ouvrira la voie à la création d'une région libre de toute cette armada de destruction de masse. Les femmes ont également parlé des droits humains et de la protection que la communauté internationale doit aux Palestiniens dans les territoires occupés. Les violations des droits humains dans les terres occupées est une réalité inacceptable qui a pour conséquence un climat de peur, l'humiliation, la dégradation, la séparation, exil, emprisonnement, blessures physiques et morales, la mort. Nous appuyons la poursuite et l'intensification des efforts des délégations, des observateurs, des deux communautés internationales, des groupes d'Israéliens et de Palestiniens et des individuels pour informer et disséminer les informations. Nous sommes conscients que toutes les violations des droits humains, quelles qu'elles soient, sont enracinées dans le fait que les droits du peuple palestinien n'ont pas été reconnus. Et que des actions spécifiques doivent être entreprises pour assurer la protection des populations palestiniennes et aller vers une solution pacifique du conflit. Protection internationale des populations palestiniennes et aller vers une solution pacifique du conflit. Nous demandons, premièrement, que les Nations Unies appliquent la résolution du Conseil de sécurité numéro 681. Deuxièmement, que les signataires de la 4e Convention de Genève en 1949 conviennent d'une rencontre à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies. Nous nous engageons à travailler pour l'établissement, premièrement, d'un réseau international de femmes sur les questions des droits humains, la paix et deux peuples, deux États. Deuxièmement, une présence permanente des femmes dans les territoires occupés, lesquelles seront hautement représentatives des mouvements internationaux des femmes. Nous condamnons fortement les restrictions arbitraires qui limitent les libertés des mouvements des Palestiniens sur la base de cartes d'identité appelées cartes ouvertes. Nous exigeons la réouverture immédiate des universités et des écoles dans les territoires occupés. Nous demandons à tous les étudiants des universités du monde de former des jumelages entre leurs universités respectives et celles des territoires occupés. Nous avons aussi parlé des impacts des mouvements démographiques dans ce conflit. Nous exprimons notre profond souci au vu de l'accélération du développement des colonies israéliennes dans les territoires occupés, profitant de l'arrivée massive des Juifs soviétiques. Nous demandons le respect et l'application des conventions de Genève sur les déplacements de population. Nous avons aussi abordé le sujet des conséquences économiques et sociales de l'occupation d'Israël dans les territoires occupés et les possibilités du développement futur. Nous soulignons que les problèmes économiques actuels des habitants des territoires occupés demandent des solutions urgentes, tout particulièrement l'arrêt immédiat de la confiscation des terres et de l'approvisionnement en eau. Nous demandons, premièrement, la mise sur pied d'une infrastructure économique indépendante dans les territoires occupés qui servira de base à l'État palestinien. Deuxièmement, l'assistance financière que les gouvernements accordent à Israël. Elle devrait être accordée également et dans la même mesure aux Palestiniens pour leur permettre de développer leur infrastructure économique. Troisièmement, nous demandons que les Palestiniens puissent commercer directement avec les autres nations. Quatrièmement, que la communauté internationale financière investisse dans les territoires occupés. Cinquièmement, que les places de travail soient davantage offertes aux femmes palestiniennes. Sixièmement, qu'une aide directe à travers les organisations d'aide internationale soit donnée et utilisée pour la reconstruction des maisons détruites, pour les soins médicaux, pour couvrir tous les coûts induits par les détentions et les frais de leur assistance légale et autres. Septièmement, bien sûr, la fin de l'occupation, qui est la cause principale de la crise économique et sociale pour la société israélienne et pour les femmes israéliennes en particulier. Nous avons décidé que ce document final de notre conférence serait présenté au secrétaire général des Nations Unies et au comité international de la Croix-Rouge par la présidente de la conférence, Anne-Marie Sembaum. Il y a bien sûr eu des sujets sur lesquels nous n'avons pas pu nous mettre d'accord et nous nous sommes promis d'en reparler dans des rencontres futures.
Cette lecture de la résolution finale de la conférence, les femmes, autant israéliennes que palestiniennes, nous ont fait part de quelques-unes de leurs réflexions sur l'importance du résultat de cette conférence, enfin sur l'importance de leur rencontre et leurs objectifs qu'elles se fixent. Entre autres, très concrètement, elles s'estiment responsables d'informer le peuple israélien en particulier, puisque seuls 58% d'entre eux soutiennent l'actuel gouvernement, ce gouvernement qui, dans sa partie d'extrême droite, imagine ni plus ni moins de déplacer les populations palestiniennes hors des territoires occupés pour continuer à pouvoir coloniser avec les nouveaux immigrants, entre autres ceux provenant de l'Union soviétique. Donc, c'est pour les 42% de la population, ceux qui pourraient faire changer d'avis le gouvernement. Il est important de leur parler et donc de créer le climat pour cela. Et à ces femmes, la meilleure façon de créer le climat qui permette de faire changer d'avis le peuple israélien et d'élire un autre gouvernement qui adopte une autre position, eh bien le meilleur moyen était qu'il y ait des contacts directs entre Israéliens et Palestiniens, que les Israéliens entendent directement la voix des Palestiniens, qui est pour eux une chose très très importante, puisque jusqu'à maintenant, cela n'avait pas pu être le cas. Entre autres, parce qu'il existe une loi très infamante selon Abi Nathan. Abi Nathan, c'est cet homme qui a été souvent en prison pour avoir, entre autres, eu des contacts avec les Palestiniens. Eh bien, justement, il est formellement interdit, selon la loi israélienne, de parler avec l'ennemi. Voilà ce que stipule la loi israélienne. Alors si ces femmes voient l'importante nécessité d'échanger de voix directes entre Palestiniens et Israéliens, c'est entre autres essayer de faire tomber cette loi. Et Abi Nathan a décidé en avril 1991 de commencer une grève de la faim illimitée dans le temps et sans retour. Ceci pour obtenir que soit abrogée la loi qui interdit aux citoyens israéliens de parler avec l'ennemi. Il dit, je cite, qu'il faut annuler cette loi parce que cette loi ne fait que des dommages, elle est injuste, elle est immorale, elle est non démocratique et n'a aucune contrepartie dans le monde, même dans les régimes les plus mauvais. La loi, normalement, a l'intention de protéger le public, sa vie, sa société, sa sécurité, ses propriétés, sa culture, sa tradition et d'autres importantes valeurs. Eh bien, en l'occurrence, cette loi-là, qui interdit de parler de paix à l'ennemi, ne protège rien du tout, sauf un point de vue politique qui est tenu par une minorité de gens, les prévenant les garantissant de leur légitimité par rapport aux autres points de vue politiques. Alors, continue Abi Nathan, je ne veux pas faire une grève de la faim dans le but de mourir, mais je le fais dans le but de vivre et que nous puissions ainsi tous continuer à vivre ici en paix. Alors, l'objectif de communiquer entre Palestiniens et Israéliens, vigoureusement soutenu par les femmes, vigoureusement soutenu par certains hommes en Palestine, en Israël aussi petit à petit, eh bien, ça semble l'objectif essentiel. Entre autres, les femmes qui étaient là au nom du Labour Party israélien faisaient remarquer qu'au sein, officiellement, il n'y a que l'extrême gauche israélienne qui a reconnu l'idée, qui a accepté l'idée de la création de deux États se respectant l'un l'autre. Eh bien, au sein du parti, du Labour Party, ça n'a pas été encore accepté par écrit, mais une femme le disait. Le bureau politique a soutenu cette démarche à 50% lors d'une dernière votation, ce qui donne beaucoup d'espoir à cette femme que ce parti s'engage à son tour dans cette politique-là. Mais en attendant, toutes ces femmes sont persuadées qu'autant les femmes israéliennes que palestiniennes peuvent faire pression sur leur population, chacune, pour les persuader non pas simplement d'accepter un traité de paix, mais de l'avoir compris et l'importance d'avoir accepté de fraterniser tant avec les Israéliens qu'avec les Palestiniens. Et les femmes ont donné cet exemple en se faisant des visites de groupes de femmes israéliennes en Palestine et inversement. Et elles se sont très vite comprises, tombées dans les bras l'une l'autre. Ces femmes évoquaient les moments très touchants qu'il y a eu dans ces rencontres-là. Et pourquoi si vite comprises? Mais parce qu'effectivement, elles ont constaté qu'elles ont beaucoup trop souffert, indépendamment du fait qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. Et elle nous encourage vivement, nous, femmes de tous les pays du monde, à aller dans les territoires occupés et ensuite, en retour, de témoigner de ce que nous avons vu. Alors, pour finir, j'ai rencontré la femme qui était là au nom de l'Organisation de libération de la Palestine, qui s'appelle Leila Shahid, qui représente l'OLP en l'occurrence aux Pays-Bas, qui était présente à cette conférence, comme elle nous le dira, une vieille de la vieille des contacts entre Israéliens et Palestiniens. Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait du déroulement de cette conférence. Leila Shahid, nous venons d'assister à la fin de la conférence de presse de cette rencontre des femmes pour la conférence sur l'Israël et la Palestine. Est-ce que comme ça, vous, au sortir de ce moment, vous avez pu raconter à toutes les femmes journalistes qui étaient là, est-ce que vous êtes heureuse de cette première rencontre? Est-ce que vous avez l'espoir que quelque chose se résolve?
Oui, bien sûr. Je suis très heureuse. Ce n'est pas la première rencontre, mais c'est la première après la guerre du Golfe. Et lorsque nous avons tous vécu ces derniers 7 mois d'une manière tellement pénible, nous sommes bien sûr très soulagés de voir qu'on peut reprendre la parole, la discussion et le dialogue pour ramener la paix dans une région qui en a tellement besoin et qui depuis maintenant 40 ans a vécu 6 guerres. Je pense que pour les Israéliennes et pour les Palestiniennes, femmes et hommes aussi, tout ce que nous souhaitons, c'est d'éviter la prochaine guerre. Et je pense que, surtout aujourd'hui, au moment où tout le monde semble être tellement sceptique sur ce que M. Baker essaye de faire, ça veut dire trouver un accord entre Arabes et Israéliens, le fait que des Palestiniennes représentant l'OLP, représentant des organisations féministes qui viennent d'être occupées, que des Israéliennes représentant un membre du Parlement, des membres de partis politiques importants comme le Parti travailliste et le Parti communiste, puissent se réunir ensemble dans une conférence, faire une conférence publique répondre à toutes les questions que les journalistes peuvent poser et se mettre d'accord sur une manière non militaire de mettre en application les résolutions des Nations Unies pour la création d'un État palestinien est une chose très importante. Parce que dans ce conflit qui est cher à toutes les nations du monde, à mon avis, la Palestine, Israël ne sont pas n'importe quel État. Et je pense que cette question trouble les esprits de beaucoup de gens qui ne sont pas directement concernés, mais qui aimeraient voir qu'il est possible de faire une paix basée sur la tolérance, sur l'acceptation l'un de l'autre, des Juifs, des Arabes, des Israéliens, des Palestiniens, et construire dans ce monde arabe qui a souffert de six guerres des démocraties réelles.
Les femmes, que ce soit les femmes israéliennes ou palestiniennes, se sont déjà fortement engagées dans ce conflit. Très concrètement, les femmes palestiniennes continuent à donner des cours alors que l'école est interdite. Les femmes israéliennes, parfois aussi, sont venues donner des cours aux enfants palestiniens. Il y a déjà eu des actions très, très concrètes. Mais cette fois-ci, on a l'impression que votre conférence, peut-être pas la première comme vous dites, mais a l'idée, l'envie d'influencer sur la politique très concrètement. C'est une autre étape que l'action concrète dans les territoires.
Effectivement. Et ceci se voit par la présence de personnes comme les parlementaires qui sont là, les membres du comité central du Parti travailliste, qui sont avant tout des politiciennes et qui, effectivement, lorsqu'elles participent publiquement à une conférence de presse avec une représentante de l'OLP comme moi, défient une loi israélienne qui leur interdit de rencontrer des représentants de l'OLP. Je pense que dans cet acte de défi, il y a un statement, il y a une prise de position politique, un engagement politique de dire que même si M. Khamir continue à dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur à l'OLP pour négocier la paix, elles ont fait le pas de défier cette loi et elles pensent, comme nous pensons, que non seulement nous pouvons travailler ensemble pour défendre les prisonniers et pour aider les blessés, mais nous pouvons aussi affronter ensemble l'opinion internationale pour leur dire que des représentants de secteurs importants de la population israélienne, avec le représentant officiel du peuple palestinien, peuvent arriver à un accord politique sur comment appliquer les résolutions des Nations Unies qui attendent depuis 23 ans d'être appliquées, sans faire la guerre, de les appliquer par le biais de négociations politiques. Si nous avons pu signer, nous, ensemble, un document qui se réfère aux mêmes résolutions que M. Baker discute avec M. Hafez al-Assad et M. Shamir, si nous, on a pu signer le document, M. Shamir et M. Mbarak et M. Arafat peuvent signer ce document, puisque nous l'avons signé, nous.
Dans votre résolution figurent aussi bien des demandes très politiques et aussi des demandes de suite, du poursuite du travail dans les territoires occupés. Par exemple, vous évoquez la nécessité d'avoir une présence permanente des femmes dans les territoires occupés qui soit largement représentative du mouvement international des femmes. Que veut dire très concrètement cette demande ?
Ça veut dire que nous avons vraiment le sentiment que le sujet qui réunit le plus les femmes à travers le monde, c'est le rejet de la violence. Peut-être parce que les femmes ont toujours vécu la violence comme victime. La violence de l'homme, la violence de la société, la violence de la guerre. Nous sentons qu'il y a un réseau réel de solidarité, mais il y a une telle difficulté de coordination, de communication, parce que assise ici à Genève, on a l'impression que Jérusalem est tellement loin. Les Palestiniens assis dans un petit village ont l'impression que le reste du monde ne les voit pas. Donc cette idée de créer un réseau de contact permanent entre femmes, parce que je pense que les femmes sont plus motivées de garder ce... Il y a une réelle fraternité entre les femmes. C'est l'esprit de famille dont a parlé Bernadette Devlin, l'Irlandaise. Cet esprit, nous l'avons senti. Et nous pensons que les femmes ont assez de motivation pour persévérer à créer le sentiment chez les femmes vivant sous l'occupation, qui sont aidées par des femmes israéliennes qui acceptent le principe d'un peuple et d'un État palestinien, qu'elles ont un réseau de contacts informel qui n'est peut-être pas les gouvernements du monde, mais qui est très important parce qu'il traverse toutes les sociétés du monde par le biais de nations féministes à travers le monde, passant par l'Europe et allant jusqu'au Canada et en Australie. Et donc, ces points de vue concrets, c'est peut-être en ça que nous sommes différents des hommes. Nous n'avons pas uniquement voulu parler de discussions idéologiques, politiques, la reconnaissance des deux peuples, la reconnaissance des deux États. Nous n'avons pas seulement voulu parler de droit international, qui est la base d'un accord entre nous tous, et je pense entre nous et la communauté du monde. Nous avons aussi parlé, comme les femmes savent parler, de travail concret, parce qu'il faut que nous puissions montrer aux Palestiniens qui sont encore sceptiques, et aux Israéliens qui sont encore sceptiques, et au monde qui nous regarde, que nous pouvons travailler ensemble à travers des projets concrets qui vont de la clinique à la coopérative, un réseau d'informations parallèles que nous pouvons faire.
Et ces choses-là très concrètes, petit à petit, joueront un rôle, influenceront les structures politiques?
Elles ont déjà joué. Je pense que lorsque moi, je suis une des vieilles militantes du dialogue israélo-palestinien, lorsque j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à rencontrer des représentants des partis politiques ou des réseaux d'activistes israéliens, il y avait beaucoup de gens dans ma famille, parmi mes amis, qui me disaient qu'ils ne pensaient pas que ça mènerait à quelque chose, qu'il y a un tel refus. Et au fur et à mesure des années, nous avons vu vraiment les Palestiniens et les Israéliens se rencontrer sur la base de la justice que doit avoir chaque peuple. Et à travers ce travail commun, j'ai vu même les sceptiques dans ma famille et parmi mes amis réaliser petit à petit que nous ne pourrons pas gagner la paix sans une alliance réelle entre nous. Nous et les Européens et les Israéliens qui ont reconnu le principe d'un État palestinien. Parce que le peuple palestinien, dans l'état de vie où il est, sans soutien, sans armée, n'a comme possibilité de se faire reconnaître et de finir par avoir son État que le soutien international. Et dans ce soutien-là, la présence des Israéliens qui ont déjà fait le choix de l'avenir qu'ils veulent vivre, d'un avenir qui est sans haine, sans fanatisme, sans négation de notre peuple. Ces Israéliens ont un rôle très important à jouer. Je pense qu'ils ont beaucoup contribué à créer un réel rapprochement. La paix, il ne faudrait pas qu'elle soit uniquement signée par les hommes, et surtout par les hommes représentant l'État. Parce que si elle n'est pas partagée par les sociétés civiles des deux nations, elle n'aura pas de suite. عبر الدجى رمحا من اللهب شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من